jour, de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur notre humanité en pleine mutation, bientôt intégralement numérisée, totalement interconnectée via les machines intelligentes que nous avons inventées et qui nous transforment en profondeur, souvent à notre insu, mais aussi de notre plein gré. Qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd? En quoi sommes-nous augmentés ou diminués par cette intelligence technique dans laquelle nous sommes résolument immergés? Voilà ce que cherche à décrypter notre invité, le philosophe Éric Sadin, penseur du numérique, autour de la question « Qu'est-ce qu'une humanité augmentée ?» Bienvenue. Bonjour Éric Sadin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes philosophe, ce que vous cherchez à penser, c'est la numérisation en marche de notre monde. Vous êtes l'auteur d'une trilogie qui explore notre rapport aux technologies. Après « Surveillance globale », »,« Enquête sur les nouvelles formes de contrôle » et « La société de l'anticipation », votre dernier essai paru aux éditions L'Échappée, « L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde », qui a reçu d'ailleurs le prix Hub du meilleur essai sur le digital. Vous avez parallèlement publié Soft Love aux éditions Galahad, un roman de science-fiction qui envisage l'amour au temps des machines et nous prépare à l'informatique émotionnelle, on y viendra. Mais votre constat, c'est que notre monde change à vitesse grand V et que notre manière de l'habiter, de vivre, d'être humain est profondément modifiée par les nouvelles technologies numériques.
Oui, ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est-à-dire la numérisation tendanciellement intégrale du monde, l'interconnexion a modifié depuis une vingtaine d'années, quantité de champs hétérogènes de nos sociétés. Et je pense que ce qu'on appelle révolution numérique, car les révolutions, il faut bien qu'elles aient une fin, aujourd'hui se termine, parce que si on peut parler de révolution numérique pendant des décennies, de ce qui nous attend à l'avenir. Hein. Et je pense qu'actuellement, suite à quantité de bouleversements, eh bien, il y a d'autres types de bouleversements qu'il faut décrypter, qui émergent actuellement et qui n'appartiennent plus au même moment que celui que nous vivons depuis une vingtaine d'années et qui regardent ce que je nomme l'intelligence de la technique, c'est-à-dire que de plus en plus, nous serions passés de l'âge de l'accès, c'est-à-dire d'avoir accès à quantité d'informations via les processus interconnectés. Alors cela ne s'amoindrit pas, continue, mais il y a un âge de l'intelligence aujourd'hui qui émerge et qui veut que nous avons créé des systèmes qui de plus en plus interprètent, comprennent les situations individuelles et collectives et prennent des décisions à notre place. Alors ça, c'est très très troublant comme moment historique.
Il faut donc le penser autour de la question « Qu'est-ce qu'une humanité augmentée ?» Première piste de réflexion sonore et numérique avec le mix TIC de Guillaume Ploquin.
Votre vie numérique, elle commence à l'instant où vous vous mettez devant votre ordinateur et vous vous connectez sur Internet.
I am a HAL 9000 computer.
Il faut essayer de se mettre à l'esprit qu'à chaque fois qu'on rentre des données, qu'on tapote sur son petit clavier, tout ce que j'écris là, potentiellement, ma mère, mon employeur ou des gens malicieux peuvent le lire.
And I want to help you.
Je trouve que les êtres humains sont bien, mais qu'ils pourraient être encore mieux. On peut physiquement relier le cerveau humain à des ordinateurs et en améliorer la performance.
Comment un papa ordinateur appelle son bébé?
Je sais pas.
Ma puce.
L'internet des objets, ou machine to machine, en fait c'est quand deux objets se mettent à parler entre eux. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait c'est très utile.
Je pense qu'est en train de naître le flux et le lien. Le lien humain, le lien social, le lien internet aussi bien sûr, et les échanges de flux, échanges de connaissances, échanges de savoirs, participation. Donc c'est en train de changer, c'est un véritable tsunami.
L'Afrique a adopté les technologies qui allaient dans le sens du lien social.
La technologie aura forcément quelques dérives, mais nous ne pouvons pas pour autant ne pas embrasser cette technologie qui fait des merveilles sous prétexte qu'il y a des choses qui posent problème.
Ils ont les moyens d'écouter quelqu'un de précis et pour y parvenir, ils relèvent aussi vos communications.
À la fois on veut des services plus modernes, on veut avoir un iPhone qui vous dit en permanence où vous êtes et en même temps on n'a pas envie que l'iPhone sache où on est. Donc il y a une espèce de paradoxe.
There is no question about it.
Éric Sadin, vous voulez réagir? Que vous inspire ce mix concocté par Guillaume Ploquin?
Je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Ce n'est pas pour vous flatter, je l'ai trouvé vraiment passionnant dans la mesure où on a quantité de points de vue lucides et contradictoires, hein, et qui sont un peu à l'image de, eh bien, de points de vue qui sont, voilà, qui circulent, qui sont partagés, qui sont formulés par ici, ici et là, et qui sont assez représentatifs de notre rapport un peu général au numérique.
Autour de la question, qu'est-ce qu'une humanité augmentée? Pour vous, Éric Sadin, aujourd'hui, vous avez dit qu'on est peut-être rentré dans une autre phase, hein, post-révolution numérique, post-Edward Snowden, qu'on a entendu aussi dans ce mix. Ce serait une humanité secondée par les machines qu'elle a inventées, c'est ça?
Certainement, c'est-à-dire que nous avons créé des systèmes qui agissent, qui sont comprenants, qui interprètent les situations et qui agissent. Par exemple, les grands systèmes mis en place par IBM depuis une dizaine d'années, par exemple dans la régulation de consommation énergétique ou la consommation d'eau dans les grandes villes. Alors, ils implémentent des grands systèmes qui collectent des données de toutes parts, avec des procédés d'interprétation des flux, des stocks disponibles, et des systèmes qui décident de l'achat de stocks d'énergie ou de couper l'alimentation à certaines zones, et sans que l'humain intervienne beaucoup dans la boucle.
Hein, c'est-à-dire que l'humain a délégué à ces systèmes intelligents beaucoup de fonctionnement.
Voilà, l'humain est concepteur, hein, et de plus en plus, il y a la faculté de systèmes extrêmement perfectionnés, d'interpréter les situations et d'agir. Donc il y a une forme de délégation qui de plus en plus s'opère à l'égard qui est concédée à la technique. Un exemple plus emblématique qui est en cours de développement actuellement, c'est la Google Car, par exemple.
La Google Car, la voiture Google.
Qui n'est pas fabriquée par Google, mais qui est, je crois que c'est une Toyota, enfin il y a eu plusieurs modèles, mais qui est infiltrée de quantité de systèmes, qui est équipé de multiples capteurs et qui est à terme sera capable d'assurer un itinéraire d'elle-même, hein, et à terme la place du conducteur pourra disparaître et pourra lire sa tablette.
Donc c'est bien plus que des simples prothèses, hein, parce qu'au fond on imaginait ces machines comme des prothèses, hein, on parle d'humanité augmentée, l'homme serait augmenté, mais là c'est différent, c'est pas tellement qu'elles vont prendre notre place, ces machines, qu'elles sont quoi? À côté de nous, qu'on vit avec,
c'est ça, qu'elles sont à côté de nous. C'est le transhumanisme, hein, qui a beaucoup insisté sur les prothèses, et moi j'ai dit souvent que ces gens-là ou ce courant-là s'attachent trop aux choses visibles. Hein. Or, ce qui se passe aujourd'hui avec le rapport aux techniques et la place qu'elle prend, c'est quelque chose en partie extrêmement prégnant, mais discret. Hein. C'est-à-dire, par exemple, les applications géolocalisées qui nous suggèrent des choses. C'est quoi? C'est des données, c'est des traitements de données qui nous suggèrent tel itinéraire ou qui nous suggère telle rencontre géolocalisée. Donc voilà, c'est une forme d'assistanat que prend la technique aujourd'hui. C'est plus de l'ordre du prothétique comme des gros. Ça existe encore, évidemment. Mais en tous les cas, les technologies numériques, aujourd'hui, depuis en gros, on va dire le milieu de la première décennie du 21e siècle, c'est tendanciellement une vocation d'assistanat que les technologies numériques assurent, et ce, de plus en plus dans les années à venir.
Et donc c'est ça qu'il nous faut penser aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point veut-on être assisté, en quoi ça nous augmente, en quoi ça nous ampute ou en quoi ça nous pousse à faire des choses.
Enfin. Ben évidemment, c'est-à-dire de saisir que nous sommes et nous allons être de plus en plus assistés par des systèmes. Ces systèmes, ils sont conçus par des humains. Il y a évidemment des grilles normatives, des critères qui ne sont pas discutés en général. Hein. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, enfin depuis une quinzaine d'années, il y a la classe hautement agissant des ingénieurs, hein, qui est par exemple Google, c'est la classe des ingénieurs qui imprègne nos existences, on peut presque dire d'une certaine façon, enfin, peut-être plus que des décisions politiques dans nos quotidiens. Hein. Et cela oriente ces systèmes qui nous accompagnent, qui sont beaucoup condensés dans nos smartphones, hein, que nous utilisons en continu, qui de plus en plus voient ce qu'on appelle l'informatique diffuse, hein, dans nos maisons, dans nos environnements, hein, des suggestions, des conseils, des alertes. Voilà, alors cet assistanat qui s'impose à nos existences sans que, collectivement et individuellement, il y ait beaucoup de place pour la délibération.
Quand même. Oui, c'est ça, on n'y réfléchit pas. En fait, c'est très formaté d'une certaine manière.
Voilà. Alors, c'est très formaté, c'est très normatif. Il y a des grilles normatives extrêmement fortes. Ça s'adosse à nos existences et sans qu'il y ait ni de la délibération démocratique, ni de conscience individuelle de la façon dont tout cela est conçu. Donc, c'est quand même très troublant et cela appelle de l'exploration et peut-être des formes d'apprentissage de la façon dont tout ce mouvement se constitue.
Autour de la question « Qu'est-ce qu'une humanité augmentée ?», nous tentons de décrypter la numérisation en marche de notre monde et la formidable mutation qu'elle engendre avec le philosophe Éric Sadin, auteur de « L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde ». Je vous propose l'éclairage d'un autre philosophe, Roger Paul Droit, qui lui aussi a tenté de penser cette révolution, cette mutation dans « Humain, enquête sur ces révolutions qui changent nos vies », écrit avec Monique Atlan.
Je crois qu'il y a, en ce qui concerne le numérique en particulier, une chose tout à fait importante, c'est qu'aujourd'hui, on a principalement, soit majoritairement des discours euphoriques de « toutes les connaissances du monde dans votre poche », etc., soit minoritairement des discours apocalyptiques de la diffusion des fausses croyances, des mythes de la haine et du racisme, et qu'on n'a pas l'articulation des deux. C'est-à-dire que la face claire et la face sombre sont regardées d'un seul œil successivement. Alors je crois qu'il faut essayer de voir de façon binoculaire la tresse des bienfaits et des méfaits.
Vous voulez réagir, Éric Sadin ? Aujourd'hui, il ne s'agirait plus de diaboliser ou d'encenser la technologie ?
C'est très juste ce que dit Roger Paul Droit. C'est-à-dire que les technologies, bon, depuis longtemps, hein, depuis au moins le milieu du 19e siècle, et particulièrement depuis l'émergence et la généralisation du numérique, génèrent beaucoup de crispation ou d'enthousiasme, hein, donc, ou de naïveté ou de crainte, va-t-on dire. Et il y a beaucoup de discours. Alors, je pense qu'il faut un peu, effectivement, se défaire, en tous les cas s'extraire des discours, s'en éloigner, et observer les phénomènes, c'est-à-dire les observer de près, les analyser de près, évaluer leurs effets, et puis les soumettre à quelques grilles éthiques. Voilà, c'est un peu
ce que vous essayez de faire,
exactement
Eric Sadin, de faire un état des lieux, de cartographier
voilà,
ce qui se passe.
Voilà, c'est-à-dire que souvent, j'essaye je me présente comme un cartographe des phénomènes techniques, comme un diagnosticien, disait Michel Foucault à son endroit. Hein. Parce que d'abord, les choses changent, il y a des courbes historiques, hein, ce qui est peut-être été vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui.
Et change très vite, en plus.
Ça change très vite, donc les discours, en général, restent bloqués sur des a priori. Or, il faut observer les choses. Et en tous les cas, en observant de près les choses, je remarque que les utopies qui étaient à l'œuvre au cours des années 80-90, aujourd'hui, ont beaucoup moins de raisons de s'affirmer, car il y a une courbe quand même qui va aujourd'hui vers une surrationalisation de nos sociétés qui s'opère notamment et en grande partie par le fait de ce qu'on nomme la numérisation.
Oui, la numérisation, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes finalement, nos vies deviennent numériques, enfin nous-mêmes sommes numérisés. Nos goûts, nos loisirs, nos itinéraires, notre corps, notre santé, tout est chiffré, finalement numérisé.
C'est ça, c'est-à-dire par la numérisation tendanciellement intégrale du monde, il y a nos gestes qui ne cessent de disséminer des données, qui sont traitées par une infinité d'instances, hein, en général privées, mais également publiques, et qui nous reviennent, hein, et qui orientent nos existences. Donc il y a une intelligibilité du monde qui de plus en plus se constitue au prisme des données et qui fait que...
Ça veut dire quoi? Qu'on est réduit finalement à un certain nombre de chiffres ou de données?
Oui, il y a une réduction des phénomènes à des chiffres, à des grilles, et qui cette réduction fait que... il y a une intelligence des choses via les nombres. Alors ça, c'est très... Peut-être qu'on ne le voit pas au quotidien, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes quantité de profils, de degrés de pouvoir d'achat, de degrés de dangerosité, de degrés... Et tout ça par l'usage quotidien de toutes les technologies numériques. Et ça crée un ensemble social qui est de plus en plus déterminé par la collecte des données et leur interprétation par des systèmes et donc par des grilles.
Alors, et ça... donc par des machines, encore, en fait.
machine et qui, en général, essaye tout ce système qui est multiple, qui n'est pas orienté par une seule personne, c'est un grand système organique général, mais qui tendanciellement tend vers la plus grande optimisation des situations, par exemple commerciales. Si je suis avec mon smartphone, je reçois une alerte, on voudrait que ne soit pas ratée l'occasion éventuellement de profiter d'une promotion pour des chaussures que je suis supposé aimer, tend vers la fluidification des sociétés, c'est-à-dire de faire en sorte, par exemple, d'un point de vue de trafic, etc., de trafic de circulation, que les choses soient dans des ratios de perte-gain les plus fluides, et vers la plus grande sécurisation.
Vous parlez d'administration numérique du monde.
C'est-à-dire que de plus en plus, l'appréhension des phénomènes individuels et sociaux s'opère au prisme des données, et cela, en grande partie, par le fait de nos usages, de nos pratiques quotidiennes, de nos technologies portables ou qui se situent dans...
Sans qu'on s'en rende compte. Alors, on va y revenir en deuxième partie. Mais en tant que philosophe, il s'agit quoi ? Simplement déjà de s'en rendre compte, d'en prendre conscience ?
Il s'agit d'en prendre conscience. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux qui s'opèrent. Je pense que notamment que, relativement à la collecte des données dont peut-être on n'avait pas nécessairement conscience, et que l'affaire Snowden, toutes les révélations de Snowden avec Greenwald...
Donc, cette informatique américain qui a travaillé pour la CIA et pour la NASA,
alors pas seulement, alors évidemment que la NSA saisissait tant d'intercepter des volumes gigantesques de données et interpréter, et interpréter des comportements via les données, mais d'une façon générale, qu'il y a une interception extrêmement massive de toutes parts des données, et donc la compréhension des comportements, il y a une pénétration de plus en plus précise, mais pas par une instance, on n'est pas du tout dans Big Brother, c'est pas du tout ça l'affaire, c'est quantité d'instances qui comprennent les comportements des individus et plus largement des mouvements sociaux via les pratiques individuelles de chacun, et qui font qu'il y a des tableaux comme ça, des tableaux qui se dressent de compréhension à flux tendu, qui ne cessent de se modifier en temps réel, des comportements, et cela par l'usage des technologies que nous usons au quotidien. Alors c'est très troublant, cette pénétration intime et globale des comportements qui s'opèrent prioritairement, et j'ai presque envie de dire quasi exclusivement, via l'usage que nous faisons de nos technologies numériques.
Oui, sans s'en rendre compte, à notre insu, mais de notre plein gré. C'est les deux en même temps.
C'est exactement ça. Et sans qu'il y ait un arsenal juridique à la hauteur, ni une conscience politique, ni une conscience individuelle. Or, il est urgent, selon moi, de voir de près comment les choses s'opèrent actuellement.
C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire en deuxième partie, dans 3 minutes, juste après le flash, autour de la question « Qu'est-ce que l'humanité augmentée ?» On continue donc de cartographier cette mutation numérique de notre monde et d'en prendre la mesure et d'en saisir les effets pour notre humanité. À tout de suite dans 3 minutes.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie du philosophe Éric Sadin, qui tente de penser la mutation numérique en cours et ses effets sur nous autour de la question « Qu'est-ce qu'une humanité augmentée ?». Éric Sadin est l'auteur de plusieurs essais. Le dernier en date s'intitule « L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde » aux éditions L'Échappée. Il est aussi l'auteur d'un roman de science-fiction, « Soft Love », qui met en scène un système intelligent qui tombe amoureux de la femme qui l'assiste. Sujet qui est un peu aussi celui du dernier film de Spike Jonze, Her, elle, actuellement sur nos écrans.
Monsieur Théodore Tumbley, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Allez-y.
Êtes-vous sociable ou solitaire ?
Ça fait un moment que j'ai pas été sociable.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
Voilà, je suis là.
Salut.
Je m'appelle Samantha. Bonjour, Théodore.
Bonjour.
Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non ?
T'es trop marrante.
Je suis marrante ? Super. Je vais tout apprendre, surtout.
J'aime ta façon de voir le monde. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un.
Ça fait quoi d'être vivant dans cette pièce, là, maintenant ?
J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher.
Comment tu me toucherais ?
comment toucher un système intelligent et comment être touché par her, par elle, hein, c'est toute la question du dernier film de Spike Jonze, l'informatique émotionnelle, l'amour au temps des machines. C'est aussi le sujet de votre roman de science-fiction, Eric Sadin, Soft Love.
Oui, c'est ça. C'est, enfin, moi, je dirais plus que c'est une fiction parce que j'ai presque pensé comme une chose qui pourrait déjà avoir lieu.
Oui, c'est pas de la science-fiction, enfin, on y est presque.
En tous les cas, ça relève de l'anticipation parce que c'est l'histoire d'un système omniscient qui assiste en continu la femme dont il a la charge exclusive. Donc, il lui conseille des choses, un peu à l'image de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire un assistana de la technique qui nous suggère, qui nous alerte à l'égard de risques, qui nous conseille. Hein. C'est déjà une sorte de présent hein, qui existe dans nos existences. Et je me suis imaginé à concevoir un système qui aurait cette omniscience et qui en plus éprouverait une forme d'empathie pour cette personne et qui secrètement serait épris d'une forme de sentiment amoureux sans qu'il le lui signifie.
Le magazine Technicart hein, qui publie un entretien avec vous ce mois-ci a titré cet entretien « L'homme qui fait pleurer le software ». On peut faire pleurer un système intelligent justement, le faire tomber amoureux
Alors, vous voyez, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une sorte d'extrême sophistication de la technique hein, et c'est ce mouvement historique que nous vivons. Alors, par la fiction, j'ai voulu mettre un peu de distance et imaginer comment cette sorte de perfection, par le fait d'un système qui formulerait des choses, qui serait le narrateur de la vie, de 24 heures de la vie de cette femme dans Soft Love, pourrait être pris de doute, d'incertitude, de sentiments cachés.
Une machine pourrait du coup avoir des sentiments, des émotions.
Voilà, alors ça relève de... J'ai pu me permettre d'y penser, non pas comme une sorte de réflexion qui viendrait de nulle part ou de ex nihilo qui me serait venue. Il y a des signes faibles qui témoignent de ça. Hein, ce qu'on appelle l'informatique émotionnelle, par exemple, c'est-à-dire des systèmes qui sont élaborés par des entreprises qui travaillent avec avec les sciences cognitives, hein, c'est-à-dire l'analyse des comportements, les réflexes, les comportements corporels, hein, et avec des algorithmes, des systèmes qui permettent de comprendre, qui tenteraient en tout cas, hein, c'est encore extrêmement difficile et lacunaire, mais tenteraient de comprendre nos états émotionnels. Alors quand j'ai vu ça, et relativement aussi aux recherches que j'avais pu faire pour mon essai, l'humanité augmentée, je me suis dit, à la mesure de cette intelligence, de cette quasi-perfection, de cette connaissance quasi-omnisciente que les systèmes acquièrent aujourd'hui, si on rajoutait une couche de sentiments, voire d'amour, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner presque à l'inverse quelque chose qui révélerait des failles. Et c'était une façon, en écrivant ce texte...
Révélerait des failles dans cette numérisation du monde.
Exactement. Des failles, c'est-à-dire le sentiment amoureux, de facto, il y a de la fragilité. Alors je me suis dit, comment une machine omnisciente... Qui assiste en tout la personne, à la fois par le sentiment amoureux...
Pourrait-elle devenir humaine, finalement?
Exactement. Serait un peu désemparée, parfois. Alors ça m'a intéressé. C'est comme une machine omnisciente qui sait tout. Hein, qui elle rencontre, quelle est la nature de la personne avec qu'elle fréquente, est-ce qu'elle est honnête, les achats qu'elle fait, elle conseille. Bon, bref, une sorte de... Un peu à l'image des assistants numériques en émergence. Et si en plus, il y avait cette empathie qu'on essaye d'affecter aujourd'hui à des systèmes, dans des laboratoires, donc là, on n'est pas dans la science... C'est pour ça que je disais, c'est pas exactement la science-fiction. Si cette empathie, au lieu d'en faire un être suprême qui en plus éprouverait quelque chose comme des sentiments, créerait une sorte de système encore plus complexe, c'est-à-dire omniscient et fragile. Et voilà, donc
est-ce qu'on n'est pas un espèce de système complexe, pas vraiment omniscient, mais en tout cas fragile, ça c'est sûr.
Exactement, c'est le propre de l'humain, c'est-à-dire d'être... Vous savez que le cerveau humain est la machine la plus complexe de l'univers, et en même temps, la fragilité fait que, notre trauma, etc., cette machine complexe, parfois, on la détruit, on la menuise, on ne lui donne pas ses pleins pouvoirs, parce que il y a la multisensorialité de notre corps qui fait que...
C'est-à-dire, au fond, que nous, la question se pose de rester humain, donc de rester fragile, et d'être face à des machines qui, peut-être, vont devenir un peu plus fragiles,
C'est... En tout cas, c'est un jeu que je me suis imaginé à développer. En tout cas, les machines restent fragiles, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est-à-dire, malgré l'omniscience qu'on évoque, il y a des trous, il y a des manques, et c'est la courbe de l'histoire de la technique qui fait que, eh bien, on essaye de combler ces manques, on essaye de perfectionner sans cesse les systèmes, mais il y a évidemment ce qu'on appelle par exemple les bugs, mais pas seulement les bugs, hein, il y a la vulnérabilité.
Puis on a besoin simplement de courant électrique pour que ça marche,
oui,
hein, déjà.
Oui, exactement, par exemple. Donc les bases peuvent être aussi, dans leur fondement, ne sont pas si garanties que ça, bien qu'il y ait des systèmes de sécurisation. Bon, bref. Mais en tous les cas, sous l'apparence de quasi-perfection des systèmes numériques aujourd'hui, il y a des trous, il y a des manques. Par exemple, dans la connaissance des profils des individus qui ne cessent de se perfectionner, parfois on voit qu'il y a des choses totalement ridicules, des offres totalement décalées. Voilà. Donc aussi, quand on parle de et moi j'en parle souvent, de sophistication, il faut voir aussi toutes les failles, une sorte de relativité.
Des failles qui peuvent être intéressantes d'ailleurs.
Qui sont intéressantes. Alors,
autour de la question, qu'est-ce qu'une humanité augmentée? Je propose tout de suite Eric Sada un nouvel éclairage. C'est celui du chercheur en informatique et communication, Pierre Cubot. Il est professeur au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, et lui aussi, il s'interroge.
C'est des questions que se posent tous les chercheurs en interaction homme-machine. Par exemple, le terme de réalité augmentée, qui est quelque chose qui émerge de nos jours. Je me souviens d'un jury de thèse où un collègue avait dit « Ok, on voit bien ce que ça augmente, mais qu'est-ce que ça enlève ?» Donc on a aussi inventé la réalité diminuée, mais ça ne va pas dans le sens que j'essaye d'expliquer là. C'est clair qu'à partir du moment où un humain est en face d'un ordinateur, s'établit un protocole, au sens de la diplomatique, hein. Donc on est un automate en fait. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'ordinateur c'est un automate, l'humain n'est clairement pas un automate, mais quand l'humain dialogue avec l'ordinateur, il se transforme d'une certaine manière lui aussi en automate. Alors cette manière de procéder, elle est dans certains cas très enrichissante pour l'humain, parce qu'elle lui donne accès à des outils, des manières de voir. Par exemple, si je prends un scientifique qui est devant un écran et derrière l'écran, il y a un énorme télescope, il voit des choses que jamais il aurait pu voir avec ses propres yeux, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit, par exemple, de discuter avec ma fille par le biais de mon smartphone, là, on sent bien que c'est un peu dommage de réduire mon rapport à ma fille à un automate. Donc c'est là, en fait, le glissement. Donc comment faire des interfaces qui, justement...
Ne simplifie pas trop.
Ça, c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours. Et puis, ce truc plus fondamental de notre vie transformée en automate.
C'est ça la grande question, hein. C'est des interfaces aussi. Et comment faire pour que nos vies ne nous transforment pas en automates? Que pouvez-vous répondre à cet éclairage de l'enseignant-chercheur en informatique Pierre Cubot?
Alors que nous fassions face à des automates, c'est certain. Que nous-mêmes, le fait que nous fassions face à des automates nous transforme en automates, ça je ne le pense pas du tout. En revanche, ça infléchit nos comportements, hein, les interfaces. Par exemple, j'ai commis un long texte pour les Inoccupables il y a 2 mois sur Facebook. J'avais analysé l'interface. On voit bien que c'est like, il y a tout de suite c'est la façon dont on élimine des amis, on les blacklist. Enfin, ça, c'est l'interface, hein, qui induit, qui infléchit les comportements.
Qui est du rapide,
qui est
du cinglant, du simpliste.
Voilà, et qui en plus homogénéise les comportements. Et alors, on parle souvent aujourd'hui de la possibilité d'apprendre le code à l'école. Alors, je pense que c'est une question importante parce que le code, hein, qui crée les interfaces, hein, c'est-à-dire des suites de chiffres qui créent des interfaces, qui les structurent, le fait d'apprendre permet à la fois d'avoir davantage conscience de la façon dont ces systèmes sont structurés et permettrait un peu plus de jeu de divergence, hein, de donner à chacun les moyens de créer des interfaces propres.
D'assouplir, d'en rajouter, de créer de
la multitude, du foisonnement. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand même depuis une quinzaine d'années? La courbe du numérique, hein, l'histoire est rapide, elle est dense, elle se modifie, elle prend des axes qui étaient aussi imprévus. Hein. Bon, et évidemment, tout cela ne va cesser de s'accélérer. Qu'est-ce qu'on voit notamment? C'est quand même des positions de quasi-monopole qui se sont constituées depuis une quinzaine d'années. Hein, on pense évidemment à Google pour ce qui est de l'intelligence artificielle et de la requête. On pense évidemment pour les réseaux sociaux de géants Facebook et Twitter. Il y en a d'autres. Hein. On pense évidemment à Amazon avec tout. Bon, alors
à Apple pour nos smartphones et d'autres marques.
Microsoft. Bon, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la déambulation sur Internet il y a une dizaine d'années, de plus en plus on passe du temps sur quelques sites majeurs, hein, et que probablement il faut réintroduire du multiple. Mais ça c'est un vœu pieux. Hein. Réintroduire du multiple, ça voudrait dire se réapproprier les outils. Hein.
Et y a... Oui, savoir comment faire avec pour comment ne pas être uniquement dirigé par ces grands monopoles.
Voilà, alors il y a toutes les mouvements du logiciel libre dont vous avez parlé il y a deux jours avec Sébastien Broca. Mais c'est là encore, ce sont des mouvements qui ont un écho global, mais qui peut-être peut-être pas assez d'effet sur les pratiques quotidiennes. Tandis que si c'est intégré dans l'enseignement, eh bien, a priori, ce seront chaque individu qui peut créer des systèmes, des interfaces, et qui, du coup, nous libère de... Quand on voit le nombre de comportements au quotidien des nôtres qui sont déterminés par des interfaces, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, déterminés par la classe des ingénieurs, et à quel point ça infléchit nos comportements. Alors, la personne qu'on entendait disait qu'il trouvait que sa fille était un peu comme un automate. Peut-être, mais en tous les cas, si c'est le cas, c'est parce qu'elle réagit à des interfaces.
Oui, et aussi, il disait que l'interface n'est peut-être pas la bonne pour justement communiquer véritablement avec sa fille.
Probablement. Mais aussi, ce qu'il faut dire au passage, c'est que là, on taxe les interfaces, mais il y a nos comportements. C'est-à-dire qu'on adhère à cela, hein, collectivement et individuellement. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'être collé à nos protocoles interconnectés. Et moi, je pense, mais c'est un vœu pieux, mais je pense que c'est une dimension à laquelle nous allons avoir besoin, c'est-à-dire de reprendre de la distance. Vous voyez les corps relativement aux smartphones, vous voyez les corps, ils sont collés. Le livre, c'est de la distance. Hein.
Vous dites, prendre la distance par rapport à l'écran, enfin,
au
petit ou au grand écran.
Oui, on est collé. Hein. C'est-à-dire, oui. On voit qu'on suit. Alors peut-être quelque chose... Moi, je dirais jamais automate, mais quelque chose qui colle à ce qui nous fait face. Or, l'humain, c'est quand même la distance. Le propre de l'humain et de l'existence et de l'appréhension sensible, c'est-à-dire, là, nous faisons face, vous et moi, nous faisons face aux choses. Et de plus en plus, nous collons. Il y a une réduction de la distance, aussi bien par le fait d'une connaissance de plus en plus approfondie, notamment par la réalité augmentée qui va apparaître, hein, qui va imprégner nos existences relativement aux phénomènes, relativement aux autres. Donc, une sorte de ce que je nomme une compression du monde, où il y aura de moins en moins d'altérité, c'est-à-dire de part d'inconnu, hein, relativement à ce qui nous environne. La réalité augmentée, c'est exactement cela, des informations qui viennent vers nous. Mais ça, c'est un fait que rendre encore plus emblématique le fait que de plus en plus nous collons à ce que nous percevons.
Donc il faudrait se décoller.
Il faudrait se décoller.
Et comprendre comment ça marche. Enfin,
voilà. Alors se décoller à plusieurs titres. Mmh. La façon, d'un point de vue de compréhension, oui, de voir comment ça marche. Et puis se décoller, c'est-à-dire de voir que. Mais là, je sais très bien, moi, j'y arrive pas. Je me le dis tous les matins. Aujourd'hui, tu vas être moins connecté, tu vas plus lire, tu vas. Et tout le monde est à la même enseigne aujourd'hui.
Au moins, se le dire un petit peu. Quoi.
Voilà, se le dire. Et peut-être un peu travailler nos comportements, mais c'est de l'artisanat. Ça, c'est de l'artisanat d'existence. Hein. Comme disait Nietzsche et comme l'a repris Foucault. Comment construire de l'art dans notre existence, de l'art, mais aussi des techniques pour ne pas être absorbé. Et je pense que c'est un enjeu individuel, éthique, comportemental, collectif et même civilisationnel qui est un enjeu extrêmement important pour les années à venir.
Comment ne pas être absorbé autour de la question qu'est-ce qu'une humanité augmentée ? Éric Sadin, je propose un dernier éclairage aux penseurs du numérique que vous êtes. C'est celui d'Hugues Vinet de l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique. Hugues Vinet dirige le département de recherche et de développement de l'IRCAM et il se demande lui aussi si le numérique aura répondu à tout. Écoutez, sa question, elle est pour vous.
Est-ce que effectivement, il y a des objets que le numérique ne pourra jamais aborder, qu'on ne pourra jamais, je dirais, numériser et traiter par les chiffres? Et est-ce qu'on est capable un petit peu d'avoir une réflexion sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, tout est numérique, tous les objets, d'une certaine manière, traitent l'information et se la communiquent, etc. C'est quand même une tendance de plus en plus large. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a toujours un rôle du physique, par exemple ? Et où va-t-il ? Moi, je constate actuellement à l'IRCAM une tendance inverse, c'est-à-dire qu'on revient quand même de plus en plus aussi à un travail sur le physique, sur le hardware, le matériel, etc., en complément de travaux sur le numérique qu'on commence aujourd'hui à bien maîtriser, vous voyez, pour tout ce qui est virtualisation, etc. Donc, voilà, c'est peut-être cette dialectique physique-numérique, par exemple, c'est une question, je pense, qui est en train d'évoluer.
entre le physique et le numérique. Que pouvez-vous répondre à Hugues Vinet de l'IRCAM, Éric Sadin?
Oui, c'est juste. Le fait est que nous allons, depuis une vingtaine d'années, nous sommes entrés dans un mouvement de numérisation intégrale. Donc Google serait aux avant-postes de vouloir tout numériser.
Tout chiffrer, les objets, il parle des objets, mais nous-mêmes,
voilà les objets. Et évidemment, nous entrons dans l'ère des capteurs, c'est-à-dire de saisir directement l'information numérique de tout ordre, de plus en plus aussi sur les corps. Alors les sens, de plus en plus nous entretenons des rapports charnels aux technologies numériques qu'offre le smartphone. Les interfaces tactiles instaurées par les smartphones depuis en gros 2007, l'iPhone, donc ils se rapprochent du corps. Et puis maintenant, il y a des projets de numériser l'odorat. Moi, je pense qu'il y a une limite, pour reprendre ce que disait... Voilà. Je pense que, vous savez, il y a... Moi, je les nomme comme ça, les délires transhumanistes. C'est le mot exact que je donne, qui pense que d'ici, ce qu'ils nomment la singularité, en plus, on y donne Kurzweil, l'apôtre, le grand gourou de ce mouvement-là, donne même une date de téléchargement du cerveau. Vous imaginez cette ineptie totale. Pourquoi je dis que c'est...
Cette humanité augmentée...
Voilà, d'imaginer que la numérisation intégrale des choses, on va pouvoir même numériser le propre de l'humain, c'est-à-dire la complexité du cerveau. Mais pourquoi je dis que c'est une ineptie? Je peux m'expliquer très simplement pourquoi. Parce que le propre du corps humain, c'est la multisensorialité, les différents sens. Même si on essaye de numériser les sens, et d'abord ça sera très compliqué, mais la multisensorialité plus notre capacité de réflexivité guidée par le cerveau humain fait qu'il y a tellement de sources et tellement de traitements multicanaux, si j'ose dire, que c'est totalement, et des modes combinatoires, des modes d'association qui, là, si on voit les choses sérieusement, si on les voit sérieusement de près, échappent, et pour très longtemps, et moi je dirais presque à jamais, à toute réduction numérique.
Ce serait ça l'irréductabilité de l'être humain? Ça serait cette espèce de multiplicité, de diversité, de relations, d'interconnexions?
Absolument. C'est-à-dire nos capacités d'opérer des associations imprévues, dont la plupart sont nourries par nos capacités sensorielles, et qui font que tout cela n'est pas réductible à des grilles chiffrées.
Il y a
des
choses. Donc même les robots avec plein de capteurs, ils n'arriveront pas à en capter autant et en faire autant de ce qu'ils captent.
En tous les cas, ils n'arriveront probablement pas au degré de complicité conceptuelle et émotionnelle qui est le nôtre. C'est surtout cela que je veux dire. Que des robots dotés de capteurs sensoriels soient capables de choses assez incroyables, c'est fort probable. Mais en tous les cas, on essaye de modéliser le cerveau humain. Mais moi, le cerveau humain, on essaye de le modéliser avec quoi actuellement? Le Global Brain Project, par exemple,
avec
des chiffres et sans qu'il y ait du tout de dimension sensorielle. Or, le propre humain, c'est tous les sens. Alors, on dit qu'il y en a 5, on dit qu'il y en a 6. Bon, en tout cas, il y a des sens. Et ces sens créent, ouais, chacun rajoute, ça potentialise, le goût avec le toucher, avec la vue, avec lui, avec l'odorat, avec les réflexions, les synapses, les réseaux de nos cerveaux. C'est une complexité infinie et c'est une naïveté de croire que non seulement ce grand ensemble, à la fois qui regarde chaque individu et qui est propre à chaque individu, puisse être réduit à des chiffres, et c'est même idéologiquement extrêmement douteux, je trouve, et que des gens puissent même croire à cela, je trouve ça très très surprenant.
Pour le coup, c'est très autoritaire et très totalitaire.
Mais oui, et puis c'est
très réducteur.
Et puis c'est aussi un rapport à la technique comme un double, comme une maîtrise totale. Vous rendez compte du téléchargement du cerveau en 2040, c'est-à-dire dans 30 ans, de téléchargement du cerveau. Vous vous rendez compte, avec la mémoire, les doutes, les choses cachées, le non-dit. Et eux disent, il y a des gens pour croire cela, on va télécharger tout cela. Non, mais soyons sérieux.
Bon, de ce côté-là, vous êtes rassurant, si j'ose dire, Éric Sadin, on va rester humain et on va rester ce qu'on est et on n'est pas numérisable complètement.
Mais c'est surtout qu'il faut voir à la fois le mouvement d'hyper-sophistication de la technique, et à la fois voir en même temps les limites, les failles, les contraintes qui s'imposent aux souhaits technologiques, aux ambitions technologiques. Et Google serait aux avant-postes de ça. D'ailleurs, les transhumanistes que je viens d'évoquer là, ils travaillent chez Google. Hein. C'est-à-dire Google n'apprécierait pas du tout non seulement n'apprécierait pas, mais tenterait de me contredire. Mais moi, j'ai
des
arguments pour les contredire.
C'est ça. Il faut des philosophes, il faut des gens qui pensent et qui disent ça n'est pas vrai, ça ne marchera pas comme ça, il ne faut pas le faire comme ça.
Mais ils tentent vers ça. Ils tentent de construire des systèmes, et il faut voir que cela, même s'ils n'y arrivent pas à essayer de créer des systèmes comme ça, globaux, omnipotents, qui seraient presque des doubles, un peu qui était l'ambition de la cybernétique dans les années 50 et 60, en tous les cas, ils concourent à construire des systèmes qui sont imprégnés par cette idéologie. Et Google, c'est quand même c'est la première compagnie dans notre relation aux données et à Internet. Et c'est pour ça que je reviens à cette affaire de classe des ingénieurs que je travaille dans mon prochain essai actuellement. C'est-à-dire, voilà des gens qui, on parlait de distance tout à l'heure, n'ont probablement pas beaucoup de distance. Hein. Ils ont des idées comme ça, ils sentent des tendances, ils pensent à construire des systèmes qui, très rapidement, pour de nombreux d'entre eux, vont intégrer nos quotidiens et infléchir sur nos existences. Et il faut voir d'où cela vient, ces systèmes qui infléchissent nos existences. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de multitude, de se réapproprier les choses,
d'avoir
le
donc
code,
de la distance, de savoir nous aussi jouer avec.
Et d'être actif. Jouer, c'est ça. C'est-à-dire d'être actif, de construire des choses, et que tout ne vienne pas de la classe des ingénieurs éminemment intéressés. C'est leur travail. Ils ont bien raison. Hein, ils essayent de faire du business. Mais ce qui est patent aujourd'hui, c'est la puissance d'imprégnation, de pénétration de ces trouvailles, de ces innovations technologiques dans nos existences.
Donc pour résister, il faut arriver au même niveau, arriver finalement à comprendre.
Voilà, c'est la réappropriation. C'est hacker la vie.
Hacker la vie.
Oui, c'est-à-dire la grande réappropriation d'existence, comme disait Bourdieu.
Hacker la vie, c'est peut-être plus.
C'est joli,
ça passe plus
voilà.
Vite, hein, ouais.
Voilà. Et c'est-à-dire comment se réapproprier autant que possible, car les forces commerciales et technologiques, elles sont extrêmement puissantes. Moi, j'ai rien contre elles. Elles font leur travail.
Hein. Mais à nous d'être aussi puissants de l'autre côté.
À nous, aux individus, aux sociétés, à la délibération démocratique, de savoir non seulement imposer des limites, d'encourager la conscience à l'égard des phénomènes qui s'opèrent, et puis d'encourager le propre de l'humain aussi, c'est-à-dire la réappropriation et d'être actif relativement à son existence et à son environnement.
Merci infiniment, Éric Sada, d'être venu en direct nous rappeler de hacker la vie. Je rappelle le titre de votre dernier essai, L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde, prix Hub du meilleur essai sur le digital. Vous venez aussi de publier un roman de science-fiction, Soft Love, aux éditions Galad.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.